8h47, la revue de presse, Claude Ascolovitch.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et on parle d'une carte de crédit, Claude.
Une carte de crédit, Nicolas, que vous avalez chaque semaine. Non pas en une seule fois, mais son équivalent. Nous avalons chaque semaine 5 grammes de plastique sous forme de ces microparticules que l'on trouve dans l'eau en bouteille, mais aussi dans les fruits de mer, la bière et le sel. Et vous trouvez cette information sur les sites de la Libre Belgique, du Temps en Suisse, du Journal de Montréal, ou directement sur le site de l'agence France Presse, qui relaye un rapport de l'Université de Newcastle en Australie, commandé par l'organisation écologiste WWF, qui voulait donner un poids à cette urgence, le plastique, qui aujourd'hui imprègne nos journaux. Sur le site de Corse ce matin, je vois des images tournées par Greenpeace d'une soupe de plastique qui flotte au large de la Corse. Les Échos et La Croix mettent aussi le plastique à leur une. La Croix me dit qu'en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Et le journal se demande si on ne pourrait pas tout simplement interdire cette matière invasive. Réponse, on ne peut pas, hélas, à court terme en tout cas. Nous n'avons jamais autant produit de plastique. 359 millions de tonnes l'an dernier. 9 milliards de tonnes depuis les débuts de l'humanité. 12 milliards en 2050 si cela continue. Et dans les Échos, je vois la plus parlante des courbes. Elle s'envole vers notre plastifié. Homo plasticus, dit joliment Le Temps, journal suisse, sur son site internet. On me parle dans La Croix et les Échos de modération, d'éducation, de l'interdiction du plastique à usage unique, de recyclage aussi, mais il a ses limites. Aux États-Unis, on étouffe sous ces déchets que la Chine ne veut plus traiter. On me parle, puisqu'il faut bien espérer, d'un plastique biodégradable que l'on fabriquerait d'un roseau asiatique. Et les Échos me jurent que l'industrie et la grande consommation sont conscients de l'enjeu. Mais une carte de crédit de 5 grammes me reste sur l'estomac. Et je suis du coup ce matin attiré dans la presse par des dérèglements. La montagne me dit que l'Auvergne manque d'eau, les cultures ont soif en Limagne et l'été on peut traverser les tourbières en basket. Je lis dans la Provence qu'un petit chien est mort, empoisonné par les émanations des algues vertes, d'avoir couru innocemment au bord de l'étang de verre de Berre. Je lis dans la Charente Libre que la saison des mariages au gay a repris à l'île de Ré, mais cet engouement romantique pour la belle île est une autre nuisance, car à force de faire la fête dans ces paysages, nous les abîmons, nous polluons.
On s'inquiète également du vin dans la presse ce matin.
Car Monsieur Trump voudrait taxer notre vin. Et cette agression fait les unes de Sud-Ouest et de la Provence inquiète. Mais me dit le bien public, on n'a pas peur en Bourgogne. Et on doit avoir raison en Bourgogne car nous sommes adossés à l'histoire. Le Progrès avant-hier, Le Monde ce matin, nous raconte comment nos raisins sont ceux de nos ancêtres. Le Pinot Noir et la Syrah ont à peine été modifiés depuis la période romaine. Le Savagnin Blanc, qui donne le vin des rois et qu'on cultive dans le Jura, n'a pas changé depuis 900 ans. C'est une étude scientifique qu'a publiée la revue Nature Plante. Sait-on à quel point les études sont de la poésie quand elles parlent de nos cèpes nés de vieilles boutures et de notre identité? Voilà notre pays, il est hélas aussi de scandales qui dorment quand Le Monde dit les gabegies qui entourent le palais de justice. Lisez, je vous en prie, cette semaine l'Express qui souligne avec rigueur une injustice française, l'injustice des privilèges dont bénéficie Paris aux dépens des provinces. On parle de culture. L'État dépense chaque année 139 euros par habitant de l'Île-de-France pour la culture contre 15 euros par habitant dans le reste du pays. Cela s'explique bien sûr par le poids des grands monuments, mais pas seulement. L'État finance 100% de l'Opéra de Paris, mais 21% de celui de Bordeaux. L'État finance 100% du fonctionnement du Grand Louvre, mais a mis 1% dans le Louvre de Lens. Voilà l'habitude d'un pays centralisé.
Et on parle de forêts pour finir, Claude.
Les forêts russes immenses, dans lesquelles 100 000 personnes disparaissent chaque année, enfants fugueurs ou babouchkas Alzheimer. Et dans ce pays russe où l'État n'inspire plus confiance, ce sont des volontaires de la société civile, raconte Le Figaro, qui s'organise en société de recherche, même des pilotes d'hélicoptères, braves Russes organisés qui disent un pays mieux que son pouvoir. Et ces volontaires avaient, il y a 2 ans, inspiré un film bouleversant sur un enfant fugueur, Faute d'amour, de Zviagintsev. Et c'est curieux pour le cinéphile de lire ce qu'il a déjà vu ce mercredi quand les films nous prennent, quand le cinéma nous révèle dans ce qu'il montre et dans ce qu'il entoure. Woody Allen a les honneurs d'une page dans Le Figaro pour simplement cette nouvelle. Nous l'aimons encore en Europe quand en Amérique il est un réprouvé et un banni depuis que le MeToo et l'affaire Weinstein ont donné un poids politique aux accusations jamais reprises par la justice de sa fille adoptive Dylan qui affirme que son père avait abusé d'elle. Mais Woody Allen verra son nouveau film sortir en France en septembre et il tournera cet été en Espagne. C'est un fait politique autant que culturel. Dans les Inrocks, parle un autre monstre sacré. Et que ce soit une première, raconte nos barrières. Alain Delon n'avait jamais parlé aux Inrecuptibles, journal culte des gauches culturelles. Il a bien fait d'attendre. Car il parle, écoutez, c'est une musique de film. Il parle bien et de cinéma. Et de son rapport aux artistes, lui qui ne savait pas écrire et remettait alors son destin dans les mains de grands hommes qu'il produisait aussi. Et en 1972, il avait produit ce film vénéneux qui ressort aujourd'hui, Le Professeur, de l'italien Valerio Zurlini, où dans les brumes de Rimini, il jouait un enseignant perdu dans un manteau trop grand et amoureux d'une de ses étudiantes. De longs producteurs, raconte Libération comme Télérama, avaient imposé à Zurlini un montage serré dont il ne voulait pas et un titre plus facile que celui qu'il désirait, emprunté à Goethe, La première nuit de quiétude. Qu'importe, lui se souvient, il a raison, que la musique fut belle. Nous partageons ce matin une émotion avec Alain Delon.
Merci Claude pour cette revue de presse.